On a bien compris que l'église de Virville a été bâtie dans un contexte général de grande puissance des seigneurs et ducs normands. Mais quelle est sa petite histoire ?
L'église de Virville émerge au cours du XIe et XIIe siècle. Elle est bâtie par les seigneurs de Tancarville, puissants seigneurs proches des ducs de Normandie. En effet, Raoul de Tancarville est chambellan de Guillaume le Conquérant. Ce sont de puissants seigneurs qui possèdent un des plus importants fiefs de Normandie, celui de l'embouchure de la Seine, en plus de 89 autres fiefs normands. Ils sont assez riches pour couvrir leur territoire de mode féodal, pour se construire un impressionnant château et pour financer sur leur propre denier l'édification de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville sur des terres données par le duc. Ce dernier fait est important. Pour la construction de cette abbaye, les Tancarville font venir des tailleurs de pierre, des maçons, des artisans renommés. Or, ils participent également à l'édification d'églises sur leur fief. Ils vont ainsi naturellement envoyer ces artisans dans les villages. D'abord à Saint-Jean-d'Abbeteau, à la Serlangue, l'église va alors prendre l'apparence d'une mini Saint-Georges de Beaucherville. Puis ils vont aller à Virville et Ouquetot, où se montent des mini Saint-Jean-d'Abbeteau. À Ouquetot, l'église romane, également dédiée à Saint-Aubin, disparaîtra au XIXe siècle. L'église de Virville est construite en pierre tuffeuse venue des carrières de Caumont, près de Rouen. La pierre était transportée par bateau sur la Seine, puis acheminée vers les chantiers dans les terres, ce qui la rendait très coûteuse. C'est pourquoi seules les parties de soutien de l'église et les parties les plus nobles sont en pierre. La façade d'entrée, les contreforts, les chaînages d'angles, les encadrements des baies, ainsi que le chevet et le dernier étage de la tour lanterne. L'appareil de remplissage est plus simple. Il s'agit de silex taillé, disponible sur place à moindre coût pour les constructeurs. Comme nous l'avons dit avant, l'édification de l'église de Virville a débuté au XIe siècle. Avec ses quasiment 10 siècles de vie, elle ne nous est pas parvenue sans changement. De ses premiers siècles de vie, nous ne savons pas grand-chose. Il y a peu de traces écrites, d'autant qu'il s'agit d'une simple église de campagne. Toutefois, à n'en pas douter, la guerre de Cent Ans, puis les guerres de religion, violentes dans notre région, ont dû avoir des conséquences sur son état. On sait qu'ainsi, au XVIIe siècle, l'église est en piteux état. Dans l'inventaire des églises du Pays de Caux dressé à cette époque, on signale que
la tour de Virville semble menacée, ruine, et le pignon du bas de la nef serait déjà tombé, s'il n'était appuyé d'une croisée soutenue par un arbre qui ne peut le supporter longtemps.
Une question se pose alors. Faut-il détruire l'église ou faire de lourds travaux de sauvegarde? C'est que cela coûte très cher et la fabrique ne roule pas sur l'or. La fabrique, c'est un groupement de paroissiens chargés de l'administration des finances affectées à la construction et l'entretien d'une église. Heureusement, une décision favorable au maintien de l'église est prise et des travaux de consolidation sont entrepris. À nouveau, en 1845, des travaux sont à prévoir. Des contreforts sont construits sur les façades nord et sud pour stabiliser l'édifice et on en profite pour ouvrir de grandes fenêtres pour rendre l'intérieur plus lumineux. Par contre, on ne s'occupe pas du style de ces ouvertures. Elles sont des plus simples, comme celles que l'on trouve sur les maisons, en total désaccord avec la baie romane qui subsiste entre les deux baies nouvelles. L'année 1866 marque un autre tournant pour l'église. Comme elle est considérée église monumentale, monsieur le sénateur préfet a la bonté de lui accorder la somme de 200 francs pour son embellissement. 6 ans plus tard, les travaux commencent. En 1872, sont accolés au côté nord une sacristie, ce petit bâtiment annexe à l'église, et une tourelle d'escalier. Elles sont construites grâce au réemploi et à la copie d'éléments existants. Le très bon état des modillons le long de la corniche, ces petits blocs de pierre sculptés situés sous le toit comme s'ils le soutenaient, et les sculptures horizontales de la tourelle d'escalier éveillent en effet les soupçons confirmés par les archives. Je vous propose d'ailleurs de vous approcher de ces modillons afin que je vous parle du décor typiquement normand de cette église.
Mais avant, j'ai une question. Tout à l'heure était évoquée la façade nord de l'église. Mais comment reconnaît-on les façades quand on n'a pas à sa disposition une boussole ?
En fait, c'est assez simple. Cela part du principe qu'une église est orientée. Orientée dans le sens où elle est tournée vers l'est, l'Orient. La majorité des églises ont le chœur, la partie où se situe l'autel, tourné vers l'est afin de recueillir les premières lueurs du jour. Naturellement, alors, l'entrée de l'église est à l'ouest, l'Occident. C'est pourquoi on parle parfois de façade occidentale. Sachant tout cela, il est facile de replacer la façade nord, à gauche, quand on est face à l'entrée, et la façade sud, à droite. Retrouvons-nous maintenant au pied de la sacristie.